Écosystème, Florence Farion.
Il me semble que la course au bonheur est plus simple quand on est en tongs plutôt qu'en bottes de pluie, que l'été il y a quelque chose de plus léger dans l'air et que l'on peut se sentir plus heureux, oui, en été. Dans quelques jours, justement, ce sera l'été. Alors pourquoi se sentir peut-être plus heureux en été? J'espère d'ailleurs que c'est votre cas, je tente. Alors, plus d'apéros avec les copains, le soleil qui réchauffe, des concerts un peu partout, se régaler de fruits, de légumes gorgés de soleil, ne plus mettre son réveil le matin pendant les vacances, déposer les enfants chez les grands-parents, faire une cousinade, retrouver des vieilles branches de la famille, faire marcher son corps, le tremper dans des eaux tièdes, faire du vélo, les cheveux dans le vent, découvrir de nouveaux paysages, bref, liste non exhaustive évidemment. Alors je sais pas vous, mais moi je trouve que tout ça en été, eh bien ça augmente le ressenti de bonheur et qu'on est un peu plus amoureux de sa vie. Faire au mieux possible avec son terreau. On va voir si notre spécialiste du jour valide mes propositions. On va kiffer jusqu'à 14h. Bonjour et soyez les bienvenus. Bonjour Florence Servan-Schreiber.
Bonjour Florence.
Est-ce que vous êtes d'accord avec mon hypothèse de départ qu'il est plus facile d'être heureux en été qu'en hiver ?
Il y a en effet une légèreté qui est due aux saisons, parce que si on regarde les cycles de la nature dort en hiver et puis va se réveiller au printemps et puis sera en effet éclatante à l'été et puis elle va petit à petit aller se recoucher. Donc nous sommes des éléments de cette nature. Donc oui, nous suivons ce cycle. Mais tout ce que vous avez décrit, d'aller voir des concerts, de passer du temps avec ses amis, demande d'avoir des amis, demande de s'organiser pour aller au concert, tout ça ne tombe pas tout cru. Donc cela nous laisse quand même la possibilité d'aussi engager des choses pendant l'hiver pour se sentir plus heureux.
Je ne vous ai pas présenté Florence Servan-Schreiber, vous êtes un peu une spécialiste, un peu même beaucoup, une spécialiste du bonheur. Vous l'avez étudiée aux États-Unis, vous êtes devenue en France une des pionnières de la psychologie positive. Vous êtes autrice à succès, Power Patate, et puis ce fameux 3 kiffs par jour que vous aviez publié en 2011 et dont une version augmentée vient de sortir en poche chez Marabout. C'est votre actualité. Il y a eu plus de 10 ans d'ailleurs entre la parution du premier, des 3 kiffs par jour, et puis de cette nouvelle version. Qu'est-ce que vous avez changé entre deux? Est-ce que c'est le monde qui a changé? Est-ce que le livre a changé? Est-ce que vous avez changé? C'est beaucoup de questions en une, ça d'ailleurs.
Le monde a fait des sauts périlleux. Et c'est là-dessus que j'ai eu envie de revenir, plus que sur l'évolution de la psychologie positive elle-même. Parce que ce qu'elle a fait, cette psychologie positive, qui en Europe, en tous les cas, il y a 10 ans, était très récente. Et nous avions encore, nous, vieux continent, quelques difficultés à imaginer que des gens dépensaient du temps, dépensaient de l'argent, dépensaient des ressources universitaires pour comprendre l'épanouissement. Donc nous nous en sommes moqués, quand je dis nous, pas moi, bien sûr, parce que j'ai été séduite par ce sujet. Mais en tout cas, l'Europe a regardé ça un petit peu de loin. Et puis, nous avons vécu tout ce que nous avons vécu. Le chaos est maintenant permanent. On peut dire que c'est un état dans lequel nous évoluons maintenant de manière tout à fait garantie. Et mine de rien, tous ces conseils, tous ces outils, toutes ces observations ont commencé à devenir moins dingues parce que nous nous sommes rendus compte que nous avons vraiment besoin de pouvoir faire feu de tout bois. Donc c'est ça ce qui s'est passé en 10 ans. C'est moins le sujet lui-même que le contexte dans lequel il évolue. Et en fait, c'est comme de l'eau, c'est-à-dire c'est comme une flaque d'eau qui a augmenté comme ça et qui fait des petites rivières et qui pénètre dans la terre de l'éducation, dans la terre de la politique, dans la terre des relations amoureuses, dans la terre professionnelle, beaucoup aussi, puisqu'on a vu introduire ces notions de bonheur dans la sphère professionnelle. Donc voilà, l'eau commence à vraiment s'immiscer partout.
Mais le monde va pas mieux pourtant. Donc, est-ce que ça ne suffit pas, visiblement, même si ça infuse, comme vous le dites?
En fait, c'est vraiment toute l'histoire de cette psychologie positive qui est de dire que n'attendons pas d'aller mal pour pouvoir aller mieux. Je vais essayer de l'expliquer un petit peu mieux. Le monde va mal, la santé mentale en Europe est très, très affectée, mais dans le monde entier. Mais en admettant que l'ensemble va moins bien, est-ce qu'il n'est pas aussi tentant de se dire que parfois, dans un moment, dans une journée, dans un contact avec quelqu'un dans ma vie, même si le fond est lourd, j'ai aussi envie que ça puisse aller bien. Et donc je crois que nous devenons plus virtuoses à encaisser le lourd, parce qu'il est là et qu'il est difficile de s'en débarrasser tant il est contextuel. Mais malgré cela, sur ce fond obscur, j'aspire quand même, vous aspirez, nous aspirons à des choses qui sont plus légères. Et grâce à ces outils vont donc nous permettre de ponctuer cette lourdeur par de la légèreté. Quand même, ça vaut le coup.
Cette psychologie positive dont vous êtes une représentante, alors forcément, je vous questionne parce que elle a souvent été réduite dans la présentation qu'on en a fait ici dans notre vieille Europe.
Je cherche une analogie pour contourner complètement cette question-là. Il y a plusieurs façons de faire la cuisine. On peut cuisiner des aliments tout à fait ordinaires, ou alors on le voit bien, la cuisine peut être un terrain d'expression artistique qui va mêler des saveurs, des couleurs, des textures absolument phénoménales. Pourquoi le ferait-on pour l'alimentation et pourquoi ne le ferait-on pas pour nos émotions, nos sensations, nos actions et nos comportements? Pourquoi est-ce que je me priverais de savoir qu'il existe une boîte de feutre qui me permet de mettre plus de couleurs dans ma vie? Je sais qu'elle existe. Au nom de quelle morale ou dogme ou habitude ou je n'irai pas ouvrir cette boîte de feutre pour mettre plus de couleurs. Et ça n'est pas parce que j'ai mis des couleurs que nécessairement j'ai transformé le monde sur lequel je mets mes couleurs. Vous voyez, le monde reste ce qu'il est. Donc il n'y a aucun dommage fait par la couleur que je viens apporter. Donc après, c'est vraiment une décision personnelle de se dire, est-ce que parce qu'il est plus dense, plus intéressant, plus intellectuel, de se sentir mal et d'aller mal et de se plaindre, etc. Et puis, je peux vous expliquer peut-être tout à l'heure pourquoi c'est tellement plus habituel pour nous de faire ça. Pourquoi est-ce que je me priverais, en tout cas, je ne m'offrirais pas la possibilité, justement, d'ajouter une pointe de couleur ou une pointe de suspens pendant quelques instants parce que ça va me faire du bien?
Et on peut aussi, entre les lignes, s'imaginer qu'aujourd'hui, il est difficile, et c'est Fabrice Midal d'ailleurs qui l'écrivait dans son dernier essai, qu'il est difficile aujourd'hui de verbaliser le fait que l'on est heureux, comme s'il y avait une sorte de sentiment de honte. Il faut oser aussi se dire, ne serait-ce que pour inspirer les autres d'ailleurs, hein, Florence Servan-Schreiber.
Une chose intéressante, c'est que si on regarde la liste des émotions de base, qui sont ce que nous ressentons, la colère, l'inquiétude, la joie, etc., il y en a 2/3 qui sont négatives et 1/3 qui sont positives. C'est-à-dire qu'il y a même moins de mots de vocabulaire pour décrire les choses positives et bénéfiques, en tout cas dans la langue française. Enfin, c'est pas dans la langue française, c'est dans toutes les langues, puisque ce qui définit ce que ressent l'être humain. Il faut comprendre que nous sommes beaucoup plus sensibles, alertés par ce qui est difficile ou négatif, parce que nous avons besoin de survivre. C'est comme ça qu'a été construit toute espèce sur la Terre, et là, pour survivre, se reproduire, continuer à exister. Pour continuer à exister, il faut évidemment ne pas avoir été anéanti par des dangers. Pour ne pas être anéanti par des dangers, il faut être équipé pour pouvoir y réagir. Donc nous sommes beaucoup plus doués pour repérer tout ce qui est négatif ou toxique, parce que c'est comme une programmation absolument indispensable au fait que nous soyons encore là. Maintenant, tout ce qui est plaisant ne va rien changer à la destinée de l'humanité. Donc, ça a moins d'importance dans notre cerveau. Nous avons cette espèce de chose inconsciente qui est de se dire que ce qui est merveilleux, ce qui est agréable, ce qui est chaleureux, doux, délicieux, c'est en plus, c'est pas en vrai. Vous voyez, ça n'est pas nécessaire. Alors que si nous avons des douleurs, des difficultés, ça c'est nécessaire, le combat est nécessaire. Donc il y a comme ça un déséquilibre structurel. Mais franchement, une fois qu'on comprend qu'il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la programmation, nous sommes doués d'un cerveau absolument incroyable, d'une conscience incroyable, qui nous permet de mettre l'accent sur d'autres choses. Et à ce moment-là, on fait du mieux qu'on peut.
Exactement. Et je le disais en introduction, être amoureux de sa vie, c'est un peu ça, être heureux. Vous aimez aussi, je crois, cette définition, c'est Saint Augustin, que vous avez emprunté à Saint Augustin, être amoureux de sa vie, c'est une belle manière de résumer ce mot bonheur.
Oui. Et je voudrais juste quand même préciser que ça n'est pas possible tout le temps. Bon, nous sommes tous inégaux en plus face à la manière dont nous interprétons ce qui nous arrive. Donc vous avez des gens qui ont tendance naturellement à voir ce qu'il y a de plus simple et de plus formidable dans leur vie. Et puis il y en a d'autres dont et je ne fais pas partie de ces gens-là. C'est pour ça que ces sujets me passionnent. C'est parce que je suis moi-même prône à l'inquiétude. L'inquiétude, c'est quelque chose qu'on fabrique. C'est une vision que l'on a de l'avenir qui n'est pas vraie, puisque l'avenir n'est pas encore là, mais qui a tendance à imaginer le pire. Donc je trouve ça très, très lourd et coûteux. Donc c'est pour ça que ces sujets me plaisent tant, parce qu'en effet, avec parfois un peu de désir ou de décision, en fait, on peut rajouter un peu de légèreté. Donc oui, c'est d'être amoureux de sa vie, mais y compris des creux de sa vie.
On voit que vous avez, et vous le dites, hein, éprouvé l'angoisse, la difficulté, et c'est bien grâce à ces outils, finalement, qu'à chaque fois, vous avez trouvé des ressources. C'est un petit peu ça, le secret, mais on a une heure pour en parler. On va revenir après un peu de musique, Laurence Servan-Schreiber, non sans avoir redit 3 kiffs par jour. Cette édition augmentée vient de paraître aux éditions Marabout. Et puis, il y a d'autres ouvrages qu'on évoquera sans doute au cours de notre discussion. Et le premier choix musical, je pense qu'il va assez vous plaire, même si on est aux portes de l'été. On va croire au printemps avec M sur la premier choix de Bastien Arnold.
Égosystème sur la première.
Te souviens-tu du temps de nos confinements? J'étais triste et hagard, ne sachant plus vraiment si les jours reviendraient des grands rires et du vent. Doucement qu'on avait en deux temps toutes les solutions à nos questionnements. Crois en l'amour comme on croit au printemps. Crois en la vie comme on croit aux enfants. Crois en chacun comme on croit au présent. Crois en ton cœur comme on croit aux absents. Ne sachant plus vraiment si les jours nous rendraient plus aimés, plus aimants. Tu m'as dit tendrement que j'avais maintenant toutes les réponses à mes questionnements. Comme on croit au printemps, croit en la vie, comme comme on croit aux absents.
Nous recevons aujourd'hui Florence Servan-Schreiber pour parler de kiff. Nous allons kiffer avec cet ouvrage. Et je vous avoue que j'ai kiffé, Florence Servan-Schreiber, 3 kiffs par jour, cette édition augmentée qui vient de paraître aux éditions Poche, parce que sans avoir ouvert la première édition, j'ai découvert votre livre à travers cette nouvelle parution et je me suis rendu compte de la richesse incroyable. C'est-à-dire que vous sourcez avec un nombre d'études, alors on le disait, psychologie positive, plutôt états-unienne ou anglophone, fun, on va dire de manière plus générale. Et si on dit 2 mots quand même de ces recherches, elles ont toujours cours, j'imagine, elles ont commencé il y a 50 ans, c'est ça, elles ont toujours cours sur cette psychologie positive autour de ces questions du comment être mieux.
Alors, elles ont à peine 25 ans.
Ah ouais ?
Oui, c'est un chercheur qui s'appelle Martin Seligman, qui, ayant tellement travaillé sur la dépression et nos difficultés, quand il a été élu à la tête de l'Association de psychologie américaine, il s'est dit qu'il avait envie de réfléchir à une psychologie préventive. Parce qu'il s'est dit, mais franchement, est-ce qu'il n'y a pas quand même des situations extrêmes qui pourraient être évitées si nous savions mieux comment fonctionne notre psychisme et si nous traitions la santé mentale comme la santé du corps, finalement. Et son intuition a été de se dire que pour se préparer au pire, il était important de savoir comment fonctionnait le meilleur. Donc, est-ce que nous ne pouvions pas aussi nous entraîner en temps de paix dans notre vie, donc quand les choses vont à peu près bien, pour être plus doués dans certains domaines qui concernent notre bien-être psychique. Et comme ça, lorsque l'accident se présente, or l'accident se présente, puisque c'est le principe même de la nature humaine, je pourrais me remettre, pas nécessairement plus vite, mais en tout cas en conscience. C'est comme ça qu'est née la psychologie positive.
D'autant que nous avons une part importante dans la manière dont nous allons vivre les événements. C'est-à-dire qu'il y a cette étude, alors je sais qu'elle est aussi un peu décriée, on a un peu dit que ces chiffres étaient tout à fait étonnants et erronés, mais elle dit quand même 50% de notre perception, de notre capacité à percevoir et vivre le bonheur serait génétique, 10% seulement serait dû aux événements de vie que nous traversons et 40% serait une question de regard, de comportement, donc nous appartiennent en propre, Florence Servan-Schreiber.
Oui, c'est ça qui est très frappant. Je commence toutes mes interventions par cette information-là, parce que même si quelqu'un veut décrier les pourcentages eux-mêmes, c'est quand même tellement radical de se dire que les événements extérieurs ne comptent que pour 10% de ce que nous allons vivre et ressentir, alors que nous avons l'impression d'être ballottés par l'extérieur. Et il faut savoir que quand quelque chose se produit, quand nous vivons quelque chose de très difficile et qu'il y a comme ça une brisure dans notre vie, à ce moment-là, c'est très aigu, évidemment. Et c'est bien plus que 10%. Mmh. Vous perdez quelqu'un dans votre vie, c'est bien plus que 10%. C'est absolument majeur. Mais ce qu'ont démontré ces études, alors juste pour continuer sur ce qu'ont fait ces chercheurs, c'est qu'ils ont décidé donc d'observer dans des laboratoires universitaires nos comportements pour proposer des interventions. Une intervention, c'est une activité que l'on va vous proposer. Et on mesure votre niveau de bonheur avant et puis on mesure votre niveau de bonheur après. Et par exemple, ça permet de se rendre compte qu'il y a un certain nombre de choses qui vont en effet nous rendre plus satisfaits de notre vie. Une autre observation justement qui concerne les difficultés, mais comme les moments extraordinaires, c'est qu'une autre de nos particularités est que nous nous habituons tout. Donc, grâce à ça, nous allons mettre en place un système de résilience que maintenant Boris Cyrulnik a complètement démontré, intégré, expliqué. La résilience, c'est notre capacité à nous remettre debout. Et on le voit bien que même quand il y a des choses, on se dit c'est la fin du monde, en tout cas c'est la fin de mon monde. On pense que tout est fini, que jamais on s'en relèvera, et puis on va s'en relever. Et à l'inverse, si on regarde l'opposé, prenons l'opposé d'une chose absolument épouvantable, si on prend ce qu'il y a de meilleur, ce serait de tomber amoureux. Donc, on tombe amoureux de quelqu'un, c'est absolument phénoménal, tous vos sens sont transformés, votre vision du monde est transformée. Chez personne, c'est très clair, absolument chez personne, ce sentiment peut perdurer dans la longueur. Pourquoi ? Parce que même à ça, nous nous habituons. Donc, vous voyez que de toute façon, parce qu'il y a cette programmation initiale qui correspond au fameux 50%, nous allons revenir à ce qu'on appelle notre niveau chacun. Nous avons comme ça une espèce d'état zéro. Nous allons revenir à cet état zéro. Donc, c'est une très bonne nouvelle lorsqu'il va nous arriver des choses terribles. Et c'est un peu dommage pour si jamais il nous arrive des choses phénoménales.
Oui, c'est le grand truc des gagnants du loto qui, effectivement, X mois plus tard, ne sont pas plus heureux qu'ils l'étaient avant d'avoir gagné.
C'est encore une autre histoire parce qu'il est très difficile de gagner un jeu de hasard parce que ça va profondément modifier le système de valeurs des gens, très souvent. Et vous avez des gens, par exemple, qui ne vont pas dire à leurs enfants qu'ils ont gagné cette somme car ils ont élevé leurs enfants avec la valeur du travail, en essayant, eux-mêmes ont démontré ça, ils y croient profondément, c'est leur programmation depuis plusieurs générations. Et tout à coup, il y a cet argent qui tombe du ciel et qui remet tellement en cause leur valeur qu'il est très difficile pour eux de s'y ajuster. Et c'est là où on voit que, en effet, les fameux 10% de la circonstance extérieure, donc voilà une circonstance extérieure qui se produit, donc elle est très très aiguë au moment où elle se produit. Et les gens qui vont bien s'en sortir, entre guillemets, c'est-à-dire qui ne seront pas suffisamment déstabilisés pour pouvoir reprendre une vie qui leur convient, qui est joyeuse, et ils vivent ça du mieux qu'ils le peuvent, ce sont ceux qui ont une très forte capacité d'adaptation. Et donc, ce que ça démontre, c'est que chez nous tous, la capacité d'adaptation est beaucoup plus importante que ce qui se produit.
Mais quand on parle de 50% de génétique, il y a quand même un facteur d'inéquité, vous mettez tout ce que vous voulez. On n'est pas tous nés avec les bons outils simplement biologiques pour être heureux.
C'est le cas pour absolument tout. C'est complètement la loterie.
Oui, bien sûr.
Donc nous sommes inégaux absolument sur tout. Et nous sommes également inégaux sur la façon dont nos synapses fonctionnent dans le cerveau. Et si on veut vraiment réduire toutes ces émotions à des fonctions techniques, ça se produit en effet dans la circulation des neurotransmetteurs dans notre cerveau. Vous savez que vont circuler de la dopamine, des endorphines, de l'ocytocine, de la sérotonine, des choses comme ça. Personne n'a la même composition. Donc oui, nous sommes inégaux. Il y a des gens qui vont fabriquer plus de dopamine et qui auront comme ça une nature un peu plus légère que d'autres. Ça n'est pas propre à la capacité à percevoir ce qui se passe autour de nous. C'est partout cette inégalité.
Mais finalement, comment on le mesure, ce niveau de bonheur, Florence Servan-Schreiber ? Parce qu'on tourne autour de la question depuis tout à l'heure, mais ça se mesure comment ? Est-ce qu'il y a justement dans toutes ces études des espèces de tests ou de choses comme ça pour mesurer votre aptitude ou votre capacité ou votre ressenti de bonheur ?
Oui, bien sûr. C'est le travail qui a été fait par ces chercheurs et c'est ça qui était nouveau. C'était de quantifier un certain nombre de choses pour avoir des points de repère et pour pouvoir sentir une évolution, sentir une régression. On s'est dit, c'est un petit peu comme tout. Même si c'est très subjectif, le subjectif n'empêche pas de créer une échelle. Donc, ce sont des batteries de questions que l'on va vous poser. Les instruments les plus simples ont 5 questions. Les instruments les plus élaborés, je crois le plus élaboré, qui s'appelle l'échelle d'Oxford, en a 24. Et en répondant à ces questions, ça permet aux chercheurs d'avoir un score de bonheur. Et donc, on se sert de ça et de ce type de questionnement pour avoir un point de repère avant, un point de repère après. Il existe aussi des échelles qui vont permettre de mesurer son optimisme. Donc l'optimisme, c'est la réaction que nous avons face aux événements futurs, mais aussi face aux événements présents. Finalement, l'optimisme va mesurer à quel point nous considérons avoir de l'impact sur les choses. Donc ça, c'est une autre chose que l'on peut mesurer. Il y a également des échelles qui vont permettre de mesurer ce qu'on appelle le locus de contrôle. Le locus de contrôle, de nouveau, c'est en quoi est-ce que je suis responsable de l'expérience que je vis. Et typiquement, quand on a des gens qui souffrent au travail, puisque ça, c'est vraiment quelque chose qui se répand de plus en plus, ce qui arrive souvent, c'est la perte de sensation que je contrôle quelque chose. Les gens se sentent extraordinairement ballottés par ce qu'on leur demande, les relations qui sont entretenues autour d'eux, etc. Et ce qui nous redonne pied, c'est de retrouver la sensation d'être en contrôle de certains aspects du travail que l'on mène ou de la vie que l'on mène. Donc oui, il existe, ça s'appelle, nous appelons ça des instruments, ce sont des questionnaires pour la plupart.
On va reparler des kiffs, puisque c'est l'objet aussi de votre livre, mais on l'entend qu'il y a plus que ces kiffs, enfin ces petits moments de bonheur qu'on s'accorde. Il y a toute une réflexion de fond par rapport à notre vie et comment nous pilotons dans notre monde. 3 kiffs par jour, édition augmentée, vient de paraître aux éditions de Poche. Je vous le conseille fortement pour l'été qui arrive à mettre dans votre valise. Florence Servan-Schreiber reste notre invitée. On va écouter de la musique, non sans se dire que peut-être ça en soi, c'est un kiff. Il paraît que la musique peut rendre heureux. Une étude scientifique a prouvé que la musique rendait heureux. C'est une étude hollandaise qui a établi une liste de chansons qui donnent le sourire. Et évidemment qu'on en a choisi une parmi celles qui sont proposées. On a choisi les Beach Boys avec Good Vibrations.
I love the colorful clothes you wear and the way the sunlight plays upon her hair. Hear the sound of a gentle wind on the wind that lifts her perfume through the air.
I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations.
Good vibrations.
She's giving me the
somehow closer now. Softly smile, I know she must be kind. When I look in her eyes, she goes with me to a blossom room.
I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations.
Good vibrations. Good vibrations.
Nous recevons aujourd'hui Florence Servan-Schreiber qui est autrice et puis bien d'autres choses. Vous dirigez une école, c'est ça, hein, Florence Servan-Schreiber aussi?
2 choses. J'ai créé la 3 Kiff Academy qui permet de se former à la psychologie positive. Donc ça, c'est pour les gens qui ont envie eux-mêmes d'être en capacité d'expliquer à leur tour, d'organiser des formations, etc. Il y a également des auto-ateliers qui permettent pour soi de découvrir ces dimensions et de les appliquer dans sa vie. Et puis, je suis désormais en effet enseignante dans une école de commerce où j'apprends ces notions à ces élèves qui, jusqu'à présent, étaient plutôt préparés et dressés pour la conquête du monde. Donnons-leur aussi des armes pour leur santé mentale. C'est très intéressant d'ailleurs, c'est ce qui se passe à l'université de Yale, où on s'est rendu compte que ces élèves qui sont extraordinairement performants, compétitifs, etc., avaient extraordinairement peu d'histoires d'amour au cours de leurs études, se sentaient abominablement seuls, et donc maintenant ils ont un cours obligatoire à l'entrée à l'université pour leur réapprendre à se préoccuper des choses qui comptent, c'est-à-dire les liens humains.
Le kiff, on va y venir. 3 kiffs par jour. Donc, c'est votre proposition. Le kiff, en fait, c'est des petits moments qui font plaisir, Florence Servan-Schreiber.
Alors non, c'est un peu plus que ça. Car si vous allez jusqu'à la fin de la description, c'est virgule pour lesquels on éprouve de la gratitude. Et c'est ça qui fait toute la différence. Et c'est d'éprouver de la gratitude qui a un impact incroyable sur l'organisme et sur notre qualité de vie. Donc, nous allons tous vivre des moments, des interactions, des situations comme ça qui sont sympathiques. Comme je vous le disais tout à l'heure, nous n'allons peut-être pas toutes les repérer puisque nous avons plutôt tendance à voir ce qui va mal. Donc, ça demande déjà un petit effort. Mais surtout, il va falloir, en tout cas si on veut vraiment capitaliser sur ce meilleur, juste s'arrêter et se dire, ou dire à quelqu'un, ou dire à une instance supérieure, si c'est quelque chose auquel on croit. Pour ça, merci. Et c'est lorsque l'on fait cela que on va bénéficier de tout un tas d'effets secondaires absolument sidérants.
Mais en quoi ce merci justement est indispensable ? Parce que le fait de dire merci, c'est le fait de verbaliser ce moment, de le reconnaître, de l'intégrer en disant « Ok, je l'ai vraiment vécu ». C'est déjà une première partie du fait que ça va s'engrammer finalement chez nous, Florence Servan-Schreiber.
C'est tout à fait la première étape, car le plaisir est toujours fugace. Le plaisir, la définition du plaisir, c'est quelque chose de plaisant qui va débuter avec une stimulation et qui se terminera avec la fin de la stimulation. Typiquement, vous avalez une gorgée de café, eh bien, le plaisir commence au moment où vous commencez à avaler. Une fois que c'est avalé, c'est parti, c'est fini. Donc, pour pouvoir en effet capitaliser, de se rendre compte et de marquer déjà le fait que ça existait, c'est une première chose. La deuxième chose qui se produit, c'est que si je commence à faire consciemment cette démarche-là, eh bien, je me rends compte que je suis beaucoup, beaucoup, beaucoup plus riche que je ne le pensais. Puisque de nouveau, une de nos tendances est d'avoir toujours la sensation que nous avons moins que d'autres, moins que ce qui est autour de nous, etc. Ça aussi, c'est un trait de caractéristique humain assez courant. Donc, quand je commence à me dire, bah, tiens, je fais la liste, des choses aujourd'hui qui ont été chouettes, qui ont été sympas, je me rends compte que je suis très riche et que j'ai de la chance et qu'il y a en fait un faisceau de choses plaisantes qui viennent vers moi, qui sont dues à des gens, qui sont dues à des circonstances, qui sont dues peut-être parfois à la météo quand on se rend compte que ce jour-là il fait beau et que c'est fantastique. Tout à coup, ça me donne une satisfaction. La notion d'avoir de la chance, en fait. Et c'est complètement différent de se dire j'ai de la chance ou de se dire oh là là, ça tombe jamais sur moi.
Et dans ce processus en fait d'engrammage ou de souvenir, vous le faites de manière écrite, vous aimez cette manière écrite parce que finalement c'est les consigner et puis vous dites vous-même avoir un petit carnet comme ça que vous serez heureuse d'ouvrir à vos vieux jours pour vous rendre compte de tous ces petits bonheurs que vous avez engrangés durant la vie parce qu'on peut les oublier finalement. Et de les poser, c'est le meilleur moyen de les garder près de soi.
Oui, c'est la relecture de ce carnet est une merveille que je m'offre de temps en temps. Mais c'est aussi pour entraîner ce muscle-là, puisque comme nous le disions tout à l'heure, ça n'est pas un muscle très naturel. Donc pour que ça devienne le plus naturel possible, parce que quand c'est naturel, c'est là où c'est agréable. Il faut entraîner ce muscle-là.
En quoi libère-t-elle l'envie, la gratitude ?
Parce que plus je pratique la gratitude, plus j'ai une sensation de richesse. Et la richesse est au sens très très large. Donc, plus je suis riche, moins il ne me manque de choses. Donc, moins je n'éprouve d'envie dans le sens négatif de l'envie. C'est pas du désir, hein. Le désir reste intact, au contraire. Ça attise même le désir, ça c'est formidable. Mais je n'ai pas l'envie au sens moral où j'envie mon voisin.
J'ajoute les visites de gratitude, qui est aussi quelque chose que vous soulignez, des visites de gratitude qui sont, je le disais, voilà, aux portes de l'été, aux portes des vacances. Est-ce que c'est pas quelque chose qu'on essaierait de mettre dans sa petite liste des possibles?
Alors, la visite de gratitude, c'est la ceinture noire. En effet, le premier niveau, c'est juste de se réjouir le soir à table et de faire un petit tour comme ça en disant, bah, tiens, quelles sont les trois choses pour lesquelles tu éprouves de la gratitude aujourd'hui? Donc, on peut échanger comme ça. Ça, c'est vraiment le premier niveau. Le tout dernier niveau, car il y en a plein entre les deux. Vous parliez d'écriture. L'écriture en est un. On peut écrire des lettres à des gens. On peut écrire dans son carnet pour soi, etc. On peut introduire cette notion de gratitude dans nos réunions lorsqu'on travaille. Mais vraiment, ce niveau ultime, c'est de rendre visite à quelqu'un pour lui dire et pour bien comprendre la différence entre la gratitude et la politesse. Donc, je viens remercier quelqu'un, non pas juste pour quelque chose qu'il a fait pour moi, c'est-à-dire qu'il a cuisiné un gâteau au chocolat et c'était bon, mais pour lui exprimer l'importance et la différence que sa présence fait dans ma vie. Et là, je suis en train de vous témoigner ma gratitude, je vous dis, la différence que vous faites dans ma vie, c'est ça. Et je vous remercie pour cette différence-là.
Qu'est-ce qui nous empêche de le faire? En vous entendant, ça paraît tellement presque évident, on va dire, mais on le fait tellement jamais. Et pourquoi on le fait pas? Par pudeur? Parce qu'on a aussi peur peut-être de gêner l'autre? Parce qu'il faut être capable aussi d'entendre et de recevoir quand on reçoit de la gratitude aussi franchement dite, aussi honnête et aussi généreuse?
Je crois que nous avons un peu peur de l'intimité. Oui, quand vous dites on ne veut pas gêner l'autre, mais avant de ne pas gêner l'autre, on ne veut pas risquer. Parce qu'il y a évidemment une vulnérabilité quand je vous dis ça. Quand je vous dis ça, c'est que je nous mets ensemble dans un bocal. Et je crois que nous sommes très frileux, nous sommes très protégés. C'est tout à fait naturel. Donc en effet, il n'est pas très courant d'aller tout de suite dans ce niveau d'intimité. D'ailleurs, des visites de gratitude, je le raconte dans le livre, je n'en ai fait qu'une seule. C'est parce que c'est très intimidant, en fait. Et c'est très, très émouvant. Donc, de temps en temps, c'est pas mal de remettre l'église au milieu du village.
On va parler des autres, parce que évidemment cette émission s'appelle Égosystème. On est dans le lien à soi, mais aussi dans le lien aux autres. On va en parler après avoir écouté ce titre. 1985, Shade. Ça aussi, ça faisait assez plaisir. Et finalement, ça a un écho avec ce qu'on vient de dire. Ça s'appelle The Sweetest Taboo. Est-ce que finalement, il faut pas passer ce tabou et puis oser aller jusqu'à la gratitude? Allez, on en parle juste après avoir écouté Shade.
Égosystème, tous les samedis à 13h sur la première.
If I tell you how I feel,
Vous parlez beaucoup dans vos livres, Florence Herrmann-Chabert, notamment dans 3 kiffs par jour, vous parlez beaucoup d'amour, de l'amour de l'autre, évidemment, du couple, mais aussi de l'amour d'amitié, de toutes ces relations qui sont, j'ai envie de dire, à la fois les sujets les plus blessants, les plus difficiles de la vie, mais en même temps les plus formidables.
Il y a peu de choses plus intéressantes que les autres. Mais il y a aussi peu de choses plus contrariantes que les autres.
C'est ça.
Toute notre difficulté et toute la richesse vient des relations que nous avons comme ça. Donc nous devons faire avec les autres, mais c'est aussi grâce à ça que nous allons vivre des choses extraordinaires.
J'aime beaucoup aussi ce que vous dites par rapport aux amitiés et j'aimerais qu'on dise quelques mots des groupes de progression. Parce que j'aime bien cette idée de se, non pas se comparer aux autres, mais finalement s'épauler à travers des groupes où on va se dire justement comment évolue notre vie. Pardon, je le fais en très très raccourci, vous allez développer avec des mots sans doute beaucoup plus subtils que les miens.
Le groupe de progrès est quelque chose que j'ai créé au moment où je me suis retrouvée dans une situation difficile, où je reprenais une entreprise suite à la mort de mon cousin David, qui était psychiatre, David Servan-Schreiber. Donc je me voilà à la tête d'une entreprise et franchement, je ne sais pas comment on fait, vraiment. Et donc, j'ai eu cette intuition de créer un groupe de progrès où nous étions d'autres chefs d'entreprise comme ça, d'autres entrepreneuses et entrepreneurs. Et nous nous réunissions une fois par mois et nous n'avions le droit dans ce rendez-vous et ce groupe que nous avons formé, de ne parler que de ce qui avait marché. Car le reste du temps, nous étions évidemment tous extrêmement ballottés par ce qui était difficile, et c'est ça la vie d'entrepreneur, hein, tout n'est pas facile. Mais pour pouvoir mesurer à quel point quand même nous progressions, c'est pour ça que ça s'est appelé un groupe de progrès, la règle c'était celle-là. Eh bien figurez-vous que c'est un groupe qui a duré 12 ans. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas lâché pendant 12 ans et que là, aujourd'hui, certains ont pris leur retraite et donc ont décidé qu'ils ne voulaient plus y participer. Mais ça a été incroyable comme soutien. Donc, ça s'organise, les relations avec les autres. Le positif s'organise aussi. Et quand on a besoin de faire des choses difficiles, franchement, c'est plus facile de le faire avec des gens autour de soi.
Vous l'avez fait sous la casquette affaires, on va dire. Mais on peut aussi le faire avec des proches ou des moins proches, enfin en tout cas des amis et que l'on va rencontrer de manière ponctuelle, retrouver pour se confier sur son parcours. Moi, je pense que ça peut être adaptable, en fait.
Mais bien sûr, je participe à un autre réseau comme ça, de réunions, où vous savez ce qu'on fait ? On se réunit et on va faire comme ça un tour. Donc, c'est vraiment, ça s'appelle un groupe de parole où chacun va parler à temps égal. Et on n'est pas là pour se répondre, on est là pour dire des choses. Et nous allons parler de moments où nous avons été extrêmement vulnérables. Et d'entendre des gens parler de leur vulnérabilité, de l'exposer soi-même, de venir raconter. Donc, on répond à des questions. Par exemple, la dernière fois que tu as pleuré, c'était pourquoi. Et quand on raconte ces choses-là, on se sent incroyablement relié les uns aux autres. Et ça nous redonne énormément d'espoir parce qu'on se rend compte que tout le monde est à la fois dans ses fragilités et dans sa créativité. Que nous, c'est tellement bon de pouvoir s'inspirer des autres parce que c'est tellement compliqué, je trouve, de vivre que d'avoir comme ça quelques suggestions qui viennent sans qu'elles nous soient destinées, mais parce qu'on les a attrapées au vol. Ça rend quand même tout plus facile et plus intéressant.
Donc sur notre liste estivale, on va y venir avant la fin de cette émission quand même, sur notre liste estivale, Florence Servan-Schreiber, on met les autres, on va essayer de trouver un peu plus de temps, un peu plus d'énergie, on sort nos radars quand même, histoire de ne pas se tromper peut-être quand même.
Sur les gens ?
Oui.
Oui, si vous voulez.
Élargissons avant de diminuer. Qu'est-ce qu'on met aussi sur notre liste des devoirs d'été, des choses que l'on pourrait s'offrir, ces kiffs que l'on pourrait s'offrir ?
Eh bien, justement, de ritualiser les choses. Et quand je dis ritualiser, cet exercice qui consiste à lister ce pourquoi on éprouve de la gratitude, j'insiste, c'est vraiment ça, le kiff, c'est pas juste du plaisir, mais c'est de dire « ah ouais, mais j'ai vraiment de la chance ». On peut le ritualiser à plusieurs, c'est-à-dire qu'on peut décider, quand on est en vacances, qu'on va faire ça le vendredi, on fait ça à la fin de la semaine qu'on a passée ensemble, de juste prévenir en disant « voilà, le dernier dîner, on le fera autour de ça ». On peut aussi ritualiser, on a parlé d'amitié, je ritualise l'amitié. C'est-à-dire que j'ai des rendez-vous dans la semaine, j'en ai un le lundi, j'en ai un le dimanche soir, ou tous les dimanches soirs. Je dîne avec mes voisins et parce que nous avons ce rendez-vous absolument inaltérable, eh bien nous entretenons une relation de proximité, de contrariété aussi, mais de vie en vrai. Mais c'est quelque chose d'organisé. Et on peut tout à fait, pendant les vacances, se dire de façon un peu militante que oui, on a envie de voir telle et telle personne et qu'on a envie d'introduire ça, de poser des questions positives aux enfants, que l'on va faire des choses de façon un peu plus militante.
Bouger son corps. Je parlais du vélo, je parlais de se laisser aller dans une eau tiède pour celles et ceux qui auront la chance de partir en vacances. Bouger son corps, ça fait partie des choses qui pourraient aussi s'inscrire sur notre liste d'été. Le bonheur passe aussi par le corps, Florence Servan-Schreiber.
Il n'y a plus aucun doute. Ah. Il est complètement illusoire de se dire qu'on peut entretenir sa tête sans entretenir son corps, puisque tout est lié. Et que le corps est planté la tête est plantée sur la machine qui est le corps. Et donc, si on ne fait pas circuler le sang nécessaire, si on ne fait pas circuler les neurotransmetteurs, les fameux neurotransmetteurs qui sont dans notre cerveau, où les neurones doivent comme ça faire des petites explosions, etc., pour pouvoir faire toutes ces explosions positives à l'intérieur de notre cervelle, en fait, il y a besoin d'activité. Et il faut plus prendre les choses à l'envers, c'est qu'il a été complètement démontré que la sédentarité entraîne la dépression. Et donc, le contraire est vrai. L'activité physique allège la dépression et permet un équilibre émotionnel et cette fameuse équilibre de santé mentale. Donc il n'y a plus aucun sujet là-dessus. Vous avez même des médecins qui vont, avant de prescrire des médicaments à leurs patients qui souffrent de dépression, eh bien leur donner un programme qui est un programme qui est destiné à leur humeur, qui n'est pas destiné aux artères, mais qui est destiné vraiment à leur humeur. Donc, il n'y a plus aucune question là-dessus. Nous avons besoin de bouger.
Et il n'y a plus aucune question non plus sur la manière de se nourrir, parce que j'étais sur votre site que vous nourrissez, notamment avec des articles, des choses comme ça, et un des derniers que vous avez mis en ligne concerne l'alimentation, en nous rappelant que les aliments hautement transformés, sucre, alcool, bonbons, etc., il y en a 5 de mémoire, qui sont dévastateurs pour notre humeur, pour notre équilibre émotionnel, Florence Servan-Schreiber.
Absolument, car ils affectent la chimie du corps. Donc le corps est quand même un instrument chimique. Il n'y a pas que des émotions. Et donc c'est vrai que ces sucres artificiels, là, ces faux sucres, les produits transformés et même l'alcool va enrober nos cellules de certaines substances qui les empêchent de communiquer avec les voisines. Et donc quand ça se passe au niveau de notre cerveau, il est évident que ça empêche un certain nombre de choses de se passer de manière fluide. Donc, ça a un impact. Voilà, ça se comprend, je crois, assez facilement. On n'a pas très envie parce qu'on préférerait manger plein de sucre. Évidemment, c'est meilleur, c'est fait pour ça aussi, pour que ce soit bon. Mais il n'empêche que quand on est un peu attentif à l'effet que ça va avoir sur l'humeur, hein, je reviens vraiment sur cette notion d'humeur, et ben on va se rendre compte que je me suis rendu compte, pour ma part, que si je n'avais pas bu un verre de vin la veille, je me réveillais de bien meilleure humeur. C'est pas, je ne vous parle même pas de l'énergie, je vous parle juste de l'humeur. C'est-à-dire que ma première pensée du matin n'est pas une pensée d'inquiétude. alors que les soirs où j'ai bu un verre de vin la veille, eh bien, c'est une pensée d'inquiétude. Donc, nous sommes suffisamment grands pour nous observer nous-mêmes et tirer des conclusions qu'on a la flemme de tirer, mais qui, quand même, objectivement, il est démontré que c'est plus facile, c'est plus léger sans.
Vous parlez d'objectifs, vous parlez de rangement, ça m'a fait rire. Vous parlez de récupération, vous parlez du toucher, vous parlez du temps qui passe, vous parlez de prendre son temps, de la curiosité, de dépenser son argent autrement, de savoir se récompenser, de la procrastination, de la nature. Enfin, tout ce qui nous entoure finalement, vous faites flèche de tout bois parce que finalement il y a plein d'études et finalement il y a aussi le bon sens. Prendre le temps de s'écouter, qu'est-ce qu'on dit en conclusion, Florence Servan-Schreiber ?
Eh bien, dans ce livre, j'ai vraiment voulu rassembler les informations dont nous disposons. Et une fois que nous les connaissons, c'est absolument comme tout. Plus nous avons d'informations sur quelque chose, meilleures seront les décisions que nous allons prendre. Donc je trouve que ça s'applique aussi à nous-mêmes et à la qualité de notre vie. Avec plus d'informations, je prends de meilleures décisions.
Florence Servan-Schreiber, je conseille, comme vous l'avez compris, 3 kiffs par jour, édition augmentée qui vient de sortir en édition de poche. Et puis il y a aussi Power Patate, ça c'était le précédent. Ça fait partie vraiment de ces classiques, on les trouve dans toutes les bonnes librairies, on est d'accord?
Oui, absolument.
Bon, et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation, d'avoir joué le jeu de ce grand tour du bonheur qui est inépuisable évidemment, mais en une heure on a réussi à dire pas mal de choses quand même.
J'étais ravie de ce moment passé avec vous Florence, merci pour ça.
Merci beaucoup et à une prochaine fois je l'espère, au revoir.
Égosystème, Florence Farion.
D'avoir la vie du bout des lèvres, à bout de souffle, à bout de rêve, et ne laisse jamais les orages prendre ta douceur en otage. Souffle tes bougies une à une, avance sans haine, sans rancune, ne tourne plus jamais le dos à l'amour et bois-le au boulot. Croisant ton étoile, passer les nuages, le soleil t'attend, mais les voiles, les gens sont salauds, passe-leur le salable. Au passé les nuages, le soleil t'attend, mais le voir. Eh oh. Saisis ta chance lorsqu'elle te caille, rends-lui chaque denier, chaque écaille, et n'oublie jamais qu'un sourire a le don d'émouvoir son cœur. Ne pleure pas plus qu'il n'en faut, ne sois ni victime ni bourreau, laisse chanter les sentiments quand viennent les couleurs du printemps. Et croisant ton étoile, passer les nuages, le soleil t'attend, mais les voiles, les gens sont salauds, passe-leur le salade. Passer les nuages, le soleil t'attend, mais les voiles.
Ton étoile, c'est une jolie, c'est presque une comptine, non? Pour se quitter, c'était Barcella sur la première, le dernier choix de Bastien Arnold, notre programmateur. Alexandre Lemierre recevait à Paris notre invité, Florence Servan-Schreiber. 3 kiffs par jour, version augmentée aux éditions Marabout, c'est dans toutes les bonnes librairies. Vous pouvez aller réécouter évidemment comme toujours l'émission sur le site rts.ch, la page d'Égosystème, les archives sont disponibles. On se retrouvera samedi prochain, ce sera dès 13h. Sans aucune surprise, nous serons là. La suite de votre programme cet après-midi, c'est avec Monumental, dans les pas de Joanne Dusset. Prenez soin de vous. À très vite. Sur la première, il est déjà 14h. Bye bye.